Cascodeur Podcast, épisode 258. Les mineurs de fond. Enregistré le 11 juin 2021.
C'est qui le patron ? Eh bien, le patron, c'est peut-être vous. Si vous allez sur patreon.com/lescascodeurs et que vous nous aidez sur les dépenses de type hébergement du MP3 du podcast, de la feed, hébergement du système avec lequel on enregistre, qui s'appelle Zencaster, le matériel, même si on s'est un petit peu calmé ces derniers temps là-dessus, voilà, le site web et un certain nombre d'autres dépenses, le DNS, etc., etc. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent déjà. Et puis, si ça vous tente, vous pouvez aller sur patreon.com/lescascodeurs pour faire un petit don mensuel, en fait, aux cascodeurs. Merci à vous. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 258. Nous sommes le 11 juin 2021. Il fait plutôt beau sur toute la France, globalement.
Très chaud.
C'est cool.
Et on continue à porter des masques par cette chaleur. Oh là là.
Ah, c'est la life. T'as qu'à aller à la campagne, c'est un peu moins suivi.
C'est ça.
Voilà, ça va vous, à part les masques ?
Bah.
On fait aller. Mais vivement que ça s'arrête quand même. Tout ça là, ça commence à être un peu long, quoi. Ouais. Tu vois.
On voudrait bien reprendre des activités, voir des gens, tout ça.
On a beau être geek et avoir moins besoin d'interaction sociale que d'autres êtres humains, voilà, ça commence vraiment à faire un peu long.
Ouais. Bon, bah écoutez, on va pas parler de notre vie, on va parler des nouvelles dans le monde du développement. Et donc la première au niveau des langages, un peu léger parce qu'on a eu Java 16 et tout ça, donc il doit y avoir le trou d'air des nouvelles. Mais cela dit, il y a eu une interview sur infocube.fr qui a été lancée. C'est Jean-Michel Dodou qui a traduit un article qui originellement sur infocube. Et donc, ça parle de GraalVM qui a publié sa nouvelle version majeure. Ils en font une par an, hein, à peu près là, oui, d'ailleurs. Et puis après, je crois qu'ils font 2-3 autres mineurs. En fait, c'est tous les trimestres, en gros. Un truc comme ça. Et de quoi que ça parle, hein, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a un interpréteur Java en Java. On avait parlé un peu, qu'on était un peu...
On avait déjà parlé, oui.
Un peu confus, ouais, sur le...
Parce que on se disait même, mais à quoi ça sert? Non, parce que Truffle, Truffle, initialement, c'est pour les langages Ruby, JS, R, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, il y a les langages qui tournent sur la JVM, donc Java, Kotlin, Scala, qui, en plus de tourner sur la JVM, en plus de tourner sur GraalVM, maintenant, ça tourne sur Java on Truffle. Donc, ça tourne sur Truffle.
Voilà. Du coup, on peut faire des images natives avec du ahead of time, mais quand même embarquer le moteur Truffle avec son implémentation Java et du coup faire de l'interprétation avec du just-in-time Java. On va perdre, hein, ça va être beaucoup plus gros, hein, mais voilà, on commence à pouvoir... Enfin, ça reste un projet de mémoire de ce que j'ai vu, mais c'était... Voilà, on peut commencer à avancer... avancer sur des choses un peu plus mixtes, quoi. Voilà, donc en gros, c'est Java dans un container de Java, en fait. C'est une machine virtuelle, voilà, qui est écrite en Java, mais qui permet notamment de faire tourner du Java. Et donc, un des points dont il parlait, c'était justement l'isolation, de dire, je fais tourner une appli Java, je peux faire tourner une autre appli Java. On sait que ça a super bien marché, les app servers hostaient plein d'applications en même temps. Mais bon, voilà. Mais cela dit, c'est des trucs qui sont faits, je crois que le modèle de Kafka Connect, c'est ça, c'est un peu le modèle de l'app server, par exemple. On déploie les connecteurs au sein d'un container et c'est la même JVM. Donc bref, il y a peut-être un cas d'utilisation autour de ça.
Non, mais comme tu dis, c'est surtout aussi de pouvoir mixer ahead of time compilation et just in time compilation, quoi. JIT et AOT.
Ouais. On avait interviewé quelqu'un de l'équipe, parce qu'il y a des francophones, voire même des français dans cette équipe. Faudrait peut-être.
Non, faire ça ne dit rien, ça serait peut-être pas mal, ouais.
Sur GraalVM, non, on devait avoir. Alors, je ne sais pas s'il va venir cette année au final, mais on devait avoir un speaker à Devox France que tu nous avais proposé, qui fait partie de l'équipe.
Ouais, c'est ça, bah ouais, bah, c'est toi, ça que je pense. Bah ouais, bah, faudrait peut-être se noter.
Mais on peut le faire, on peut lui faire une interview, potentiellement, ouais.
Parce que Devox France, ça va être pour l'élite.
Cette année, un peu plus que d'habitude.
Ceux qui ont gardé leur billet depuis un an et demi, en fait.
Ah, je l'ai perdu.
ouais, malheureusement, on n'ouvrira pas les vannes. Donc, bon.
Après, ça sera enregistré sur YouTube, etc., comme oui. d'habitude. Mais,
oui,
mais
en
rien
fait, un enregistrement classique.
Oui.
Caméra, YouTube, etc. Ok, alors ensuite on va passer aux librairies. Spring Boot 2.5 est sorti. Qui en veut parler, Arnaud ?
Oui, je peux en parler rapidement. C'est une mise à jour, elle n'est pas particulièrement attractive, on va dire.
ça commence c'est bien.
Non, mais c'est...
Parce que voilà. Déjà, mais, c'est pas moi, j'ai rien dit, je ne l'ai pas obligé à dire.
Non, mais... C'est-à-dire, allez, je vais donner plus d'état. Non, c'est des mises à jour sur la version Java supportée, puisqu'ils supportent Java 16, ils supportent Gradle 7. Maintenant, il n'y a pas de truc révolutionnaire. Ils ont surtout, en fait, stabilisé. Je trouve que c'est une version de stabilisation. Ils ont amélioré la gestion, la création des images de Docker. Ils ont amélioré tout ce qui était... la partie métrique, il y a beaucoup plus de choses intégrées. D'ailleurs, il y a eu un bug en 2.5.0 qui vient juste de fixer en sortant la 2.5.1 hier. Mais voilà, c'est juste, je pense, une consolidation de tout ce qu'ils ont ramené ces derniers temps, qui marche donc au final plutôt bien. Faut pas s'attendre, il y a pas des trucs super. D'ailleurs, enfin moi personnellement, j'ai migré mes applications, j'ai juste changé la version quasiment. Enfin voilà, il y a vraiment pas de gros trucs qui cassent. Après, il y a peut-être d'autres. C'est toujours le problème, c'est que l'écosystème est si large que c'est difficile de parler pour tout le monde. Il y a probablement quelques domaines où les changements sont bien plus importants, mais sur, on va dire, sur la stack de base du Spring Data, Spring Boot, Spring Security Web, etc., ça reste assez dans la continuité.
Et ils en sont où du support natif, au fait, justement, est-ce que tout ça, ça reste compilable avec GraalVM ou...
Il est toujours, en alpha ou bêta, je ne sais plus. Spring native.
Spring native, ouais, j'ai pas trop suivi.
J'ai pas vu passer le GR, je crois pas qu'il soit. Il avait été annoncé en bêta, c'était au mois de mars. Et je pense pas qu'il soit. Attendez, on va vous dire ça en live. Je ne sais pas. C'est des versions 0.9 en fait. C'est toujours des versions 0.9 en ce moment. Donc ils sont toujours dans les pré-versions 1.0 en train de stabiliser toute cette partie Spring native qui permettrait effectivement de faire comme pour Quarkus et autres, mais d'avoir des versions natives basées sur GraalVM, etc. de leurs applications.
D'accord. Et juste, je regardais parce qu'effectivement Spring Boot après il y a beaucoup de dépendances qu'ils ont mis à jour. Donc, je regardais. Donc, Spring Data. Alors, je vais faire des choix hein, de fonctionnalités, mais il y a le support de Java Flight Recorder. Donc, Spring Core a ajouté le support de Java Flight Recorder qui est. C'est pas fait pour les métriques, c'est plutôt pour faire de l'analyse de perf. En fait, c'est à ces niveaux-là qu'on récupère les infos avec JFR. Et donc. Spring Core avait ce support-là pour pouvoir publier des événements JFR et du coup la Spring Data en publie. Query by Example pour R2DBC et le support avec Oracle. Enlever Solar. C'est les gros points que moi je vois, mais je vous encourage à regarder. Ils sont passés à la version 2021.0,
pardon. Oui, la première de 2021.
Voilà. Spring AetoS passe en 1.0, donc c'est pas 2021.0, mais c'est 1.0. Donc ils expliquent les changements par rapport à la milestone et à l'ARC. Là, je vais pas en parler parce que je connais moins bien. Sur Spring Intégration, c'est plutôt des changements qui ont l'air plutôt des changements plutôt que des nouvelles fonctionnalités. Voilà, donc ça, c'est dans vos migrations à suivre. Kafka, Spring Kafka passe de 2.6 à 2.7. Hein, et là, donc ils se sont mis à jour avec la version de Kafka, justement, 2.7. Et ils ont un moyen de réessayer les messages en utilisant les topics de façon non bloquante. Voilà, le reste, c'est plutôt des changements et des dépréciations que vous pouvez aller voir. Et le dernier, c'est Spring Security qui passe en 5.5 avec des choses de sécurité dedans.
beaucoup d'améliorations sur le support de O2, puisque c'est le scope est très large sur O2, ouais. Et donc ils ont ajouté pas mal de trucs.
Ouais. Et Kotlin DSL, le Remember Me support, donc c'est dans le pour définir l'envie d'avoir ce genre de flow. Voilà, donc, bon, c'est un survol hein, assez haut, mais c'est Spring Boot 2.5. Ensuite, Hibernate a non pas une release, mais 20 ans.
Incroyable. Spring Barrier,
non, pas trop longtemps, mais c'est fou. Hein. Il y a 20 ans, c'était la
première
sortie. On est à
Hibernate 5.5, hein, c'est ça.
5.5 avec la 6 en dev, ouais. Et du coup, ça ne nous rajeunit pas parce que.
Parce que c'était au tout début, ouais.
Tout début, mais vraiment pas loin. Et donc,
moi, je sais que je me souviens très très bien qu'à l'époque, j'étais sur un projet, un gros projet, et on était en train de poker différentes librairies de mapping parce que vous pensiez bien à cette époque-là, on faisait tout à la mano, c'était un peu relou. Et
il n'y avait pas beaucoup, hein, il y avait TopLink.
Alors, on est parti sur JDO. Alors là, pour celles et ceux qui connaissent
quel JDO, moteur de JDO, vraiment, du coup
c'était le français là.
Versant.
Codo, je crois, oui. Un français qui a fait ça, qui maintenant bosse pour Microsoft. Codo, je crois. Bref. Et après avoir utilisé JDO pendant un petit bout de temps, quand même, on a démarré les nouveaux projets avec Hibernate. Donc ouais, je vous parle de ça, c'était 2002 ou 2003, quoi. C'était vraiment les toutes premières versions.
Ouais, mais t'étais en retard, hein. Ça faisait déjà 1 à 2 ans.
sur le même projet, Oracle, on utilisait Maven 09. Je m'en souviens encore parce que les gars, les fameux architectes Tour d'Ivoire disaient « Mais vous êtes fous, on n'a pas le droit d'avoir des frameworks en 0 point. » Et plutôt que de leur expliquer que c'était Maven, que c'était pas grave, que ça partait pas en prod, et comme c'est open source, on avait compilé notre propre version de Maven qu'on avait forcé à version 1.x. Donc quand on tapait Maven version, il y avait 1.4 et les gars, ils ont rien vu. Voilà.
Oh, ouais, c'est pas possible.
C'est vrai.
Moi, c'est poussé les ans à Eclipse 1, je crois. Mais c'est peut-être Maven 1 aussi, mais j'avais regretté parce que pour le coup, il y avait quand même un peu de besoin de maturation.
Mais bon, non, c'était juste un démarrage après.
C'est incroyable. Ouais, vas-y.
Non, c'était juste un on plus plus où effectivement, on avait commencé à standardiser, à améliorer notamment la partie report. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais démarré dans les années, avant les Maven 1, c'était ça qui m'avait attiré. C'était, tu faisais rien et t'avais plein de rapports de tout que tu savais pas utiliser parce que les check style, les machins, les trucs, tu disais, oh là là, merde, mon code est dégueulasse. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Mais au moins, t'avais tous les rapports qui étaient dispo. C'était ça qui était génial. À l'époque, ouais, t'avais le site web qui était généré et tout. Tu montrais ça au chef de projet. Il était là. Oh, mais c'est génial ce que t'as fait. J'ai rien fait, j'ai juste cliqué, tapé Maven et il m'a tout fait tout seul. C'était super.
Ouais. En tout cas, c'est incroyable de voir, parce que là, on voit Maven, on parle d'Hibernate, on parle de Spring, donc tout cela, ils ont ou ils vont avoir 20 ans. C'est quand même.
Java, beaucoup plus, ouais. Même. Ouais.
Et après, tu pourrais dire, c'est parce que c'est sclérosé, plus rien n'a bougé, mais là, en fait, si, il y a quand même beaucoup de choses dont on ne parle plus là, donc c'est un peu les survivants, mais c'est incroyable d'avoir quand même à la fois une stabilité et une évolution en Java.
Oui.
Après, on aime ou pas, mais c'est assez unique quand même dans l'industrie. Voilà, sinon, Vertex 4.1 est sorti avec le une introduction, je crois que c'est en bêta, mais du driver non bloquant pour Microsoft SQL Server. On peut écrire des proxys avec Vertex en dessous, mais sous les proxys HTTP, il y a quand même pas mal de choses à implémenter. Donc là, maintenant, ils ont une implémentation par défaut si on veut la réutiliser et construire des choses au-dessus, plutôt que de l'écrire soi-même. Ils ont le support de RX Java 3, notamment comme ils sont passés de callback à future, voilà, ils ont réaligné ça proprement. Le support de OpenTelemetry Tracing, ils sont plus conformes à OAuth 2 et OIDC. Voilà, il y a eu des améliorations là-dessus.
Alors, attends, de Kotlin, alors, ouais. Une petite question, Emmanuel. Alors, ce que tu viens de dire, est-ce que ça veut dire que c'est plus compatible Java 8 alors ? Il n'y avait pas un truc, non, où ils allaient casser les API et que ils supporteraient plus Java 8 ?
Non. Je ne sais pas si Vertex 4, c'est une bonne question.
Ou je confonds peut-être, alors, parce qu'il me semblait que c'était justement RX Java 3 qui allait.
Dans Vertex, c'est toujours des façades. Donc, tu peux avoir RX, mais tu peux avoir Mutiny, tu peux avoir Spring.
Reactor.
Reactor, voilà, merci.
Reactor.
Avec Mono et Flux.
Ouais.
Voilà, donc après, peut-être que RX 3 impose une version de Java, mais le Vertex, après, je sais pas. Ouais, on va dire, on sait pas. Voilà, ensuite, Kotlin 1.5 en support. Et puis ils ont rajouté la flexibilité dans la configuration des pools. Notamment, on peut avoir maintenant plusieurs loops de boucles d'événements par pool. Ils ont rajouté la capacité d'annuler un des événements qui est en attente de faire l'annulation, en attente d'entrée-sortie. Une implémentation potentielle en log-free au niveau de ces boucles-là, je crois, ou des pools, je sais plus. Voilà, un certain nombre d'améliorations à ce niveau-là.
Est-ce que tu peux avoir une event loop par request ? Non, c'était une blague de mauvais goût, c'était dire.
Une event loop par événement,
en
fait.
On peut en avoir plusieurs, tu sais, parce que c'était... Ouais. On n'a qu'un seul event c'est... loop. Et là, maintenant, ils disent on en a plusieurs. Tu dis, ben, j'en veux 100.
Voilà. Ça, c'est Java EE au final, maintenant.
Ouais, ben voilà. c'est...
Et si vous voulez faire sortir votre session web, la stocker dans InfiniSpan,
on a reconnu déjà
un composant pour ça. Et plus de choses niveau sécurité, Open API, service proxy, etc., etc. Donc je vous encourage à lire. Alors il y a le lien direct et puis il y a un autre lien qui explique les nouvelles fonctionnalités que j'ai trouvé très bien. Donc merci à Julien d'avoir écrit. Ça nous aide à faire nous nos présentations. Voilà, on va passer à l'infrastructure. Alors, qui a fait tomber son site web ici ?
Je suis quand même allé sur le fameux site, là, vous savez, Is the Internet Down for Everyone But Me ou un truc comme ça. Parce que PayPal fonctionnait plus. Enfin, il y avait plein de sites. Et comme j'ai quelques soucis avec ma box, je me dis, flûte, c'est ma box. Donc, tout le web était down, quoi, presque.
Ouais, alors j'ai pas eu dans tout le détail, mais en gros, c'est un problème chez Fastly qui est un Content Delivery Network. Et effectivement, bon, on l'a déjà vu, hein, mais quand ce genre d'infrastructure, que ça soit AWS, un composant assez important, ou Cloudflare, ou Fastly, voilà, ça fait tous les DNS, je me rappelle plus lequel est tombé il y a pas longtemps, oui. Ça se sent. Ça se sent, et donc c'est un Content Delivery Network. Donc déjà, il y avait plein de sites web qui ressemblaient plus à rien parce qu'il n'y avait plus de CSS.
Oui.
Il n'y avait plus de JavaScript.
Twitter aussi, Twitter.
GitHub, avait, par exemple.
C'est aussi, GitHub, de ce Twitter, que je comprends, un des CDN qui est utilisé pour les artefacts de type NPM, Maven, etc., etc. Ce qui fait que quand vous essayez de faire votre build, ben, ça trouve plus. voilà. Et du coup, pourquoi PayPal est down ? C'est peut-être parce que le JavaScript qui faisait les choses ne marchait pas.
Ouais, ou ça. Ouais.
Et donc, ils ont eu un bug. Ils ont fait une nouvelle fonctionnalité. Quelques jours après, un client l'a utilisé avec une option. Et cette option a, par cascade, ils n'ont pas été dans le détail, mais a fait tomber 85% de leur réseau. Et donc, ils ont une timeline où ils récupèrent quand même assez vite. Ils remontent assez vite les choses. Donc, ça, c'est... Moi, je suis toujours impressionné. Les gens, ils disent, on a détecté une minute après, on a détecté que c'était vrai. Ensuite, on a retracé dans l'heure que ça venait de tel truc. Et du coup, on a fait un rollback, on a remonté une partie de la truc. Et puis, on a fini de fixer le bug et il était 7 heures du soir.
Chapeau. Oui, puisqu'ils disent effectivement à 9h47, ça commence. À 9h58, ils publient le statut, ils disent « Oups !» et c'est vrai que ça commence à s'améliorer une heure après, et puis ensuite, l'incident, le statut est résolu, etc. Enfin, ça leur a quand même occupé une grosse journée de 9h47 à 17h25, et je sais pas s'ils font du remote ou pas, je sais pas comment, mais ouais, je pense que ça n'a pas dû être facile.
Ouais. Voilà, on va passer dans les nuages, au cloud, avec une news qui aurait pu être dans la news loi information et société, mais
oui.
Il y a un petit truc qui était caché discrètement, c'est que donc AWS, on a la notion de région, et donc les gens l'utilisent en disant bah, moi, mes données ne doivent pas vivre, par exemple aux États-Unis qui ont des lois extraterritoriales d'extraction des données, et du coup je veux que ça soit sur le sol souverain, par exemple en Europe ou en France, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ça, bon bah, on dit bah, j'installe mon serveur ou j'utilise le service dans telle région et donc c'est dans telle région. Sauf l'intelligence artificielle où en fait c'était pas hyper clair que les données en fait elles pouvaient aller ailleurs, donc notamment aux US. Parce que, et en gros, on le comprend, ils construisent leur modèle à partir des données des gens. C'était
bien sûr.
Tous utiliser le moteur, il sera
plus donné
en fait.
Bah oui.
Donc ils agrègent, ils exécutent ils construisent comment on appelle ça d'ailleurs, le modèle, et puis le modèle redescend et voilà. Et il y avait moyen de le désactiver. Alors déjà c'était écrit en tout petit dans les trucs qu'on lit jamais là.
Dans le contrat.
Voilà. C'est même pas le contrat, c'est l'annexe
36. Mais
ouais, l'annexe 27. Et donc on pouvait demander que ça remonte pas, mais fallait en gros. Envoyer une lettre avec un timbre, une adresse inconnue. Non, j'exagère, mais il fallait le demander à la main. Voilà. Et du coup, ça a lancé un peu un débat dans la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas remonter les données? Parce que, est-ce que c'est zéro? Est-ce que, bah oui, mais la notion de control plane, c'est-à-dire les télémétries de comment marche le service, est-ce que c'est OK de les remonter? Voilà. Donc, il y a un équilibre, en fait, aujourd'hui, dans les cloud providers qui sont que, les trucs de type télémétrie, enfin tout ce qui est autour du control plane, c'est OK de les remonter. Par contre, le corps du service qui tourne, idéalement, on le laisse en local. Et donc là, pour l'AI, l'intelligence artificielle, du coup, ça a cassé un peu ce truc-là. Notamment, les fonctionnalités, c'était CodeGuru Profiler, Lex, Poly, Recognition, Textract, Transcribe and Translate, SageMaker, Fraud Detector, Mechanical Turk and Augment AI. Donc, notamment Fraud Detector, on imagine qu'il y a peut-être pas mal de sites de commerce qui l'utilisent et qui se disaient, bon, bah, on est à l'abri. Voilà. Attention, attention.
Je trouve que c'est toujours les trucs qu'on. Enfin, on le sait, on s'en doute que malheureusement, rien n'est parfait. Après, c'est toujours le même problème, c'est ce manque de transparence. Et comme tu le disais, c'est caché dans les. Toute petite note, machin, etc. Si c'était clair et précis, telles données sont remontées pour des besoins X, Y, Z, peut-être que les gens, en bon escient, diraient oui ou non. Mais là, aujourd'hui, c'est toujours le même truc. Bon, bah, on dit rien, puis on espère que personne ne verra rien. Puis, bah, le jour où que ça se voit, bah, voilà. Et après, on comprend bien qu'effectivement, il y a plein de besoins où il faut agréger les données si on veut pouvoir les travailler, etc. Enfin, l'IA, obligatoirement, si tu n'as pas accès à l'ensemble des données, bah, ton modèle sera incomplet. Donc, tes nouveaux schémas seront incomplets. Mais, bah oui, mais c'est à quoi dans ces données? C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est toujours la même question. Parce que là, dans les services que tu cites, bah, ça dépend, ouais. Qu'est-ce qui est utilisé comme données IA pour ces services-là? Un fraude détecteur, c'est quoi? Ça va être mon email à moi quand je me balade ou quoi que ce soit? Ou c'est juste des ID? Voilà, c'est ça que je sais pas. Donc effectivement.
Bah, ta carte bleue, quand est-ce que tu as tes transactions, le montant?
Voilà, c'est ça. Alors, c'est...
Rien de problématique.
Voilà, rien de problématique. Tout est dans les fameuses métadonnées, comme ils savent dire pour nos fameuses boîtes noires en France, etc. C'est juste les métadonnées. On regarde pas vos informations. définissez les métadonnées, c'est quoi les métadonnées, et que je sache clairement dire si c'est, je suis d'accord ou pas. Et sachant qu'effectivement, c'est très difficile après pour un citoyen lambda de dire s'il est d'accord ou pas. Ça va dépendre qui ça impacte. Hein. Déjà pour
nous. Enfin, je sais pas ce que font vos banques, mais moi, il y a quelques années, lorsque j'ai vu apparaître sur le relevé, le PDF qu'on lit jamais, mais le relevé de banque, il y a quelques années, ça remonte il y a bien 6 ou 7 ans, j'ai vu apparaître les diagrammes en forme de camembert qui me dit vous dépensez 15% en santé, 32% en loisirs, 26%, et j'étais hyper choqué. Et maintenant, je pense que toutes les banques le font. Ouais. Ça choque moins, mais de quel droit ? Enfin, en gros, on m'a jamais rien demandé. Je me retrouve avec un camembert. On me dit que c'est certainement pour mon bien, pour que je me dise oh là là, 32% de loisirs. Oh là là, ou les mômes ça coûte cher.
Allez, je les jette.
Et j'ai trouvé que c'était hyper intrusif. Et c'est vrai qu'ils ont rien demandé. Et maintenant, c'est pas devenu commun. Et
ensuite, on va passer à la rubrique web. Alors, ça y est, les standards, qui veut se lancer ?
Ah, les standards. Moi, je me souviens que lorsque je faisais partie du JCP et qu'on essayait de mettre des normes autour de Java E, on me disait, mais les standards, ça sert à rien. Ensuite, on a dit, les standards, c'est peut-être pas mal. J'en vois de plus en plus. Et là, c'est vrai que on dit bon bah pour écrire une extension sur Safari, Chrome, Edge et Firefox, on pourrait pas se mettre d'accord sur quelques trucs. Donc, ils ont créé le Web Extension Community Group, c'est-à-dire que c'est le Write Once, Run Everywhere des extensions pour les navigateurs. Après j'ai pas suivi, je sais pas quelle est leur roadmap, je sais pas bien comment ils vont le faire. Mais voilà.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça vient d'un, en fait Safari, ils ont déjà un niveau d'émulation pour supporter les extensions des autres navigateurs, parce que je pense que c'était un peu le parent pauvre des extensions.
C'est sûr.
Et du coup, ils ont le support, alors au moins pour Chrome, de prendre une extension Chrome et le faire tourner sur Safari. Et du coup, c'est parti de ça. Ils se sont dit, bon, peut-être, vu qu'on a réussi à faire une émulation, c'est-à-dire, bon, on n'est peut-être pas si loin que ça tous. Voilà. Après, je pense qu'il y aura des débats intéressants sur qu'est-ce qu'on offre en termes d'API. Par exemple, Safari est connu pour être extrêmement restrictif sur ce qu'il offre, non ? Tu peux pas voir le contenu de la page, etc. Ce que des ad bloqueurs, par exemple, ont besoin. Et du coup, ils ont une API un peu tordue de règles qu'on peut exprimer sur le contenu, mais sans voir le contenu, voilà. Donc, on verra un peu comment ça se converge, tout cela. Et puis, voilà, après, moi, je me dis, de toute façon, il reste Chromium. Donc déjà, t'as 90% du marché qui a le même moteur d'extension.
C'est ça. Donc, bon. En gros, c'est juste un problème pour Safari. Ben,
c'est bien. Moi, j'utilise Firefox personnellement. Donc,
voilà. Ah. Mais... t'es un des seuls.
Ou Safari sur mon téléphone.
Par contre, ce qui est perturbant, c'est qu'ils disent qu'il faut un compte au W3C. Donc moi, j'étais persuadé que c'était il fallait être membre du W3C, mais non. Donc bon, j'ai découvert qu'on pouvait avoir un compte et pas être membre.
Faut juste donner ton email qui sera revendu. À...
voilà. Mais j'étais persuadé qu'il fallait quand même appartenir au W3C pour faire partie du Web Extensions Community Group, mais c'est pas le cas. Donc lancez-vous si ça vous intéresse.
Ouais. Uber. On attend les contributions d'Uber sur le... Alors, on va passer à l'outillage et on avait complètement raté la news avec Gradle en nouvelle version majeure qui était sortie. Donc, Cédric, un, nous l'a rappelé et deux, a été assez gentil de nous faire un crowdcast donc qui sera bien plus précis et détaillé que ce qu'on aurait pu donner.
Donc, merci Cédric.
Voilà, on laisse Cédric nous en parler.
Bonjour à tous, c'est Cédric Champeau. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous résumer en moins de 5 minutes Gradle 7. Donc Gradle 7 est sorti début avril, et comme toujours chez Gradle, on a une version majeure par an. et plusieurs versions mineures par an, donc environ une version mineure toutes les 6 semaines. Donc à l'heure où vous écouterez ce podcast, il est fort probable que la version 7.1 voire 7.2 soit déjà sortie. Donc les versions majeures en Gradle, c'est essentiellement fait pour deux choses. C'est un, promouvoir les API qui étaient soit instables, soit disponibles depuis quelque temps et qu'on considère comme étant maintenant utilisables par tout le monde. Ou l'inverse, supprimer des API qui étaient dépréciées depuis quelque temps et que cette fois on se permet de supprimer complètement. Donc, en quelques mots, Gradle 7, c'est quoi? C'est d'abord le support de Java 16, donc c'est la première version qui supporte officiellement Java 16, c'est-à-dire que vous pouvez lancer Gradle lui-même avec Java 16, et compiler effectivement avec Java 16 vos projets Java, sachant que sur les versions précédentes, c'était possible de compiler, mais pas d'exécuter Gradle sur Java 16. Parmi les mises à jour, on va aussi trouver le support de Groovy 3. Donc ça, c'est en termes de compilation de vos build scripts. Donc pour les points Gradle. Et puis, autrement, on va trouver notre lot de mises à jour classiques Gradle en termes de performance. Donc dans ce lot, je vais en prendre deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle le File System Watching. Et donc ça, c'est un démon qui va s'exécuter et qui va avoir le rôle de notifier Gradle des fichiers qui sont modifiés dans votre projet, et donc lui éviter d'aller faire du crawling de répertoire, par exemple, pour essayer de trouver lui-même quelles sont les modifications. Et donc ça permet d'accélérer sensiblement l'exécution des builds. Parmi les autres améliorations de performance, je voulais parler de la compilation des scripts Kotlin DSL pour le coup, puisque c'était, et ça reste toujours d'ailleurs un problème, la performance de la compilation Kotlin. Donc en version 7, c'est largement amélioré pour les build scripts. Je vous ai parlé de stabilité. Donc dans cette version 7, nous allons avoir des fonctionnalités qui existaient avant qui ont été promues, notamment dans la gestion de dépendance. Donc je vais donner quelques exemples. Par exemple, la vérification de dépendance est maintenant quelque chose de stable. Donc c'est cet outil qui vous permet de vérifier que vos dépendances soient correctement signées et avec les bonnes checksums. Donc on fait ça pour les dépendances de vos projets, mais aussi pour les plugins de Gradle lui-même. Donc ça, c'est très important pour la sécurité de vos projets. La promotion aussi de ce qu'on appelle le Consistent Dependency Resolution. Donc ça, ce sont des systèmes qui permettent de garantir que parmi plusieurs projets ou parmi même plusieurs, ce qu'on appelle configuration d'un projet, vous allez résoudre les mêmes versions. On a fait des améliorations des simplicités d'utilisation, on va dire. Donc par exemple maintenant, si vous utilisez les mêmes repositories dans tous vos sous-projets, il y a un endroit central dans lequel les déclarer. Et puisqu'on parle de central, là je vais vous juste donner un exemple de fonctionnalité expérimentale qui débarque dans Gradle 7. Pour tous ceux qui font de Gradle depuis un moment, vous savez que pour déclarer vos versions, il existait plusieurs patterns qui ont été un petit peu définis par la communauté. Donc on trouvait les dependencies.gradle, on trouvait le fameux ext dans un fichier de build script pour déclarer les versions, etc., etc. À partir de la version 7, vous avez une fonctionnalité qu'on appelle le version catalog, qui permet de partager vos numéros de version entre les différents projets. Donc pour ça vous avez un fichier toml tout simplement, et l'avantage si vous faites ça, c'est qu'en plus on va vous générer des accesseurs statiques, et donc au lieu d'utiliser des coordonnées, donc des groupes artefacts version dans vos fichiers de build, vous allez pouvoir utiliser des choses par exemple comme libs.junit, et ça va vous amener la version de junit que vous avez déclarée dans ce fameux fichier toml. Donc voilà, en moins de 5 minutes, c'est très difficile de synthétiser toutes les nouveautés de Gradle 7. Allez voir si vous n'êtes pas allé voir encore. Et n'hésitez pas à me contacter sur Twitter si vous avez des questions. Merci à vous.
Voilà, ben merci encore Cédric. Bon, qui ben d'ailleurs, Cédric quitte Gradle Inc.
Gradle Inc.
Donc il l'avait rejoint il y a pas mal de temps, bah, après que Spring, enfin VMware ou je sais plus quelle boîte c'était à l'époque, mais a décidé d'arrêter tout ce qui était Groovy. Et du coup Guillaume, Graham, Cédric et tous les gens de la communauté Groovy, en fait, devaient se retrouver un job. Donc là, il y a eu un mot de flottement, tout s'est un peu éparpillé. Et donc Cédric était arrivé sur Gradle, qui utilisait Groovy comme langage de pour son système de build. Après, ils sont ouverts à d'autres langages. voilà. Et du coup, je sais pas, je crois pas qu'au jour où on enregistre, on ait l'info de où va Cédric. Mais je sais qu'il va quelque part. Je crois que c'est ce qu'il a annoncé sur Twitter. Je suis pas dans les petits papiers. voilà. En tout cas, bah, il a vachement contribué. C'était vraiment un avocat sans peur et sans répit. de Gradle, je pense qu'il continuera parce qu'il croyait beaucoup, mais voilà, on va voir.
Vous avez vu, Carnot parle pas.
Ah non, mais il a
quitté. Carnot, il dit rien depuis tout à l'heure.
Mais moi, j'attends. Enfin, c'est juste que ça y est. Bon, il a quitté Gradle. On sait que Gradle, c'est mort. Donc voilà, c'est fini. Enfin voilà, revenez à Maven, laissez tomber. Enfin, on le sait tous. Hein, ça y est. C'est la fin du game.
Ce qu'il a dit en off, il dit bah bon courage à Gradle.
Non, beaucoup de belles choses pour Cédric et même non, Gradle, on sait très bien que ça va continuer, qu'il y a encore de nombreuses années devant eux, même si ils ne nous rattraperont jamais côté Maven. On les aime bien.
La loi Pareto. 80% Maven.
Oh, moins aujourd'hui.
Moins maintenant.
Ouais, je ne sais plus à combien on est.
Sinon, vous rappelez, il y a déjà Audacity qui s'était fait racheter. Donc déjà, bon. Et là, paf, c'est encore plus gros là. Parce que les développeurs, ils s'en foutaient d'Audacity, à part nous.
On est seul à l'utiliser.
Et là, on a une boîte que
Stack Overflow.
Ouais,
c'est incroyable. C'est énorme. Ouais. C'est énorme.
Et surtout par des boîtes dont on ne connaît pas le nom, qui sont apparemment des conglomérats énormes, mais.
Prosus. Alors, ils ont des parts dans Code Academy, Udemy. Donc, ils ont pas mal de parts dans des tas de boîtes, mais c'est vrai que Prosus, jamais entendu parler. Bon.
1,8 milliard quand même.
Oui.
Stack
c'est
Overflow,
notre ami Jean Polski qui doit être pénard là.
Ouais, bah il était déjà.
Ouais, il était déjà
pénard. Il a fait. Oui. Il avait fait je sais pas quoi au début, mais après il a fait Trello qui s'est fait racheter.
Oui, Trello, ouais.
Par Atlassian. Là, Stack Overflow qui se fait racheter. Ça va, tranquille.
C'est ça.
Alors, Joël.
Mais c'était plus le CEO, hein. Il avait été remplacé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, par quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Qui justement avait fait donc ils avaient Stack Overflow et Stack Overflow Career, la carrière qui donnait en fait des qui liait les recruteurs avec les gens de qui étaient experts, et ça leur ramenait la moitié de leurs revenus, et ensuite ils faisaient une migration vers le SaaS, et donc pour faire de l'infrastructure Stack Overflow mais pour votre entreprise en interne, hein, des questions-réponses en interne, voilà, plutôt que d'essayer d'inventer un clone ou des choses comme ça. Et du coup ils avaient aussi fait un deal avec Microsoft en termes de collaboration, une intégration avec je sais pas quoi, voilà. Et donc visiblement c'est ça qui intéressait Prosus, cette approche SaaS avait été en forte croissance, même si Jobs leur amenait la plupart de l'argent. Voilà.
Bon, on va voir si ça va avoir un quelconque impact pour nous, dev. On verra bien.
Ouais. Bon, après, les données étaient. Enfin, il y avait un dump tous les mois, donc c'est pas qu'on peut pas dire. On peut pas dire que nos données ont été volées, hein, mais elles étaient déjà exploitables sans merci à tout qui voulait.
C'est ça.
D'ailleurs, je sais pas si la licence restreignait l'usage ou si c'était open. C'est une bonne question. On ne regardera pas, mais on vous laisse chercher, chers auditeurs. voilà, troisième point sur l'outillage Docker Hub.
J'ai mis ça dans outillage, mais on en parle quasiment tous les mois tellement ça tue tout l'écosystème. Docker Hub a une fonctionnalité utilisée maintenant depuis le début, hein, quasiment, enfin, d'auto-build, donc de construire automatiquement les images quand vous publiez un Dockerfile et de les construire. Et donc il y avait un certain nombre de builds possibles pour les utilisateurs free qui pouvaient faire quelques builds d'images, et bien sûr vous pouvez en faire plus si vous pouvez acheter les services Docker Hub. Manque de peau, les crypto-mineurs sont passés par là, une fois de plus, merci les crypto-mineurs. Donc on en avait parlé, je crois, l'épisode dernier, c'est notamment sur tous les systèmes de CI free qui ont été
CircleCI,
mais nous, chez CodeShip, on a eu le même coup. Enfin, tout le monde l'a eu, de toute façon, voilà, tous les trucs qui sont free, ils vont essayer de vous faire d'utiliser du CPU n'importe où. Et donc, ils ont fait le même coup. Là, en avril, ils ont vu le nombre d'heures de construction augmenter deux fois par rapport à ce qu'ils avaient d'habitude. Ils avaient déjà désactivé 10 000 comptes à cause de minocrypting. La semaine d'après, ça a recommencé. Ils avaient encore 2200 mineurs qui faisaient du Docker Hub et qui essayaient de miner via des constructions d'images Docker, bon, truc de fou. Donc ils ont pris la.
Bon, je vais channeler Guillaume, mais j'ai la chanson de Pierre Bachelet qui me trotte dans la tête depuis que tu nous parles de mineurs. Mais je vais pas la chanter.
Non, ah, bon, c'est dommage. J'attends. Tu peux la trouver pour la passer en fond sonore. Donc Docker a décidé d'arrêter la fonctionnalité d'auto-build pour les utilisateurs gratuits de Docker Hub. Vous pouvez plus donc avoir ce système de construction des images automatiquement. Si vous êtes un projet open source, il faut les contacter et ils vous offriront le service après avoir montré patte blanche, etc. Pourquoi vous êtes un vrai projet open source et voilà. Sinon, si vous êtes juste un utilisateur qui utilise ça gratuitement, ils font des promotions sur leurs offres Team et Pro, voilà, pour essayer d'enrayer l'épidémie, parce qu'ils ne peuvent pas, comme tous les autres acteurs, la CIA et autres, on ne peut pas réussir à tenir les charges nécessaires pour miner du Bitcoin et autres, voilà. Donc, un service de
plus. C'est un truc que je me demandais, c'est quel est le gain? Alors, quand c'est gratuit, évidemment, il suffit d'en faire assez, puis tu gagnes de l'argent. Mais quel est le gain, en gros, par heure de compute qu'un crypto miner récupère? Si c'est, mettons, c'est obligé d'être par heure. Mais si on est obligé de payer, tu vois, un fee de 10 euros, un one-time fee de 10 euros par compte ou 1 euro tous les mois, tu te dis, bon, 1 euro tous les mois, c'est suffisant pour être la marge qui va empêcher les mineurs de tourner. Mais après, ça dépend du prix du Bitcoin, etc. Et ça se trouve, ça reste encore rentable.
C'est ça. Moi, j'avais miné il y a une petite dizaine d'années, je pense. J'avais mon Mac Mini. Et mon Mac Mini, il fait serveur, en fait. C'est un vieux Mac. Et il est là, il tourne. Et à l'époque, je me suis dit, tiens, et si je minais? Parce que j'ai un pote qui minait. Et comme il se passait rien au bout de quelques mois.
Si t'as un pote qui te saute par la fenêtre, tu dis tiens, si je faisais la même chose, c'est n'importe quoi.
Non, mais je me suis dit tiens, ça m'interpelle. Et comme au bout d'un mois ou deux, il se passait rien parce que tout seul, il se passe rien. J'ai intégré un groupe de mineurs.
Ouais, tu fais un pool,
donc,
pool
de mineurs. Je me suis mis avec un pool de mineurs et je me suis mis à miner. Et à l'époque, il y a une dizaine d'années, enfin peut-être même un peu plus, je sais plus. Il y avait un des gars du pool qui avait sorti une app qui regardait le cours du Bitcoin, la consommation en kilowatts de ton Mac Mini ou de ta tour ou de ton machin, et qui te disait, bon, là, tu viens de perdre de temps. Et puis au bout de 6 mois, j'ai tout arrêté. Je devais avoir 0,0001 Bitcoin, ce qui fait quand même 4000 balles aujourd'hui, peut-être. Mais, alors, voilà, c'est comme tu dis, le coût du Bitcoin maintenant est beaucoup plus élevé, donc ça va être rentable. Mais à l'époque, je claquais 50 balles en kilowatt et puis je gagnais 4 cents, quoi. Tu vois, donc voilà, j'ai arrêté ma carrière de mineur.
Voilà. Ouais. Encore une carrière de foutu.
Comme
avec un Mac Mini, c'est un Mac Mini.
Le mineur en France, c'est plus un métier d'avenir.
Voilà. Mais bon. Et donc dans l'IT, c'est pareil et ça, c'est vrai que ça nous gonfle parce que voilà, on est obligé de retirer tous les services free un peu partout et de les loquer au maximum à cause de ces usages qui sont pas cool.
Et voilà. Ça ferait super mal si GitHub Action.
Par exemple, eux, ils se battent continuellement contre ça. Ils avaient déjà communiqué. Je ne sais plus si on en avait parlé dans les cascodeurs, mais je crois qu'ils avaient fait les articles aussi.
Mais il y avait une news, pour le dernier épisode.
Tous, de toute façon, tous.
Ça serait dommage, là.
Ouais, tous,
là,
on a les mêmes problèmes. Dès qu'on offre du CPU quelque part et que c'est gratuit, les personnes s'engagent dessus et vont faire du crypto mining. Donc, c'est compliqué.
Yes. Alors, nous allons parler méthodologie. Et en fait, j'ai vu un tweet d'un monsieur qui travaille chez Mozilla. Puis Mozilla, vous vous rappelez, ils sont restructurés environ pas mal de gens. Donc, il y a eu une Mozilla diaspora chez Google, etc. Mais donc là, c'est chez Stripe. Et Stripe, c'est un service de C'est de paiement, je crois, non ça
il me semble.
Je crois.
Oui.
Un service de paiement.
C'est un peu comme PayPal.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est une API, en fait, plus que service final, je crois. Mais en tout cas, le gars dit, mais c'est incroyable la différence chez Mozilla entre les pull requests et le première réaction sur la pull request. Il pouvait se passer des jours. Et là, le feedback que j'ai sur ma pull request, en tout cas la connexion initiale, c'est 10 minutes.
C'est dingue.
Et nous, on se bat avec ça au niveau des projets que je vois. C'est effectivement, les développeurs, ils aiment... Comment on amène à ce que la culture, ça soit d'aider la pull request à avancer plutôt que de dire « Non, mais moi, je fais mon code. Après, oh là là, revoir le truc, bon, je le fais parce que ça fait partie du job. C'est comme la doc. »
C'est ça.
Et comment on inverse ça ? Visiblement, Stripe, ils ont cette culture de « Je revois le code, je l'exécute. » Et je pense... Donc, Stripe, c'est un service et je pense que ça vient beaucoup de là. C'est-à-dire qu'un service, tu dis « Je fais la truc, je ship, je commit, j'ai shippé et hop, il est en prod. » Et du coup, cette notion de la pierre, c'est le dernier truc avant d'aller en prod. Et du coup, il y a peut-être un intérêt d'avoir participé à la mise en prod, tandis qu'une PR sur un produit qui va être réalisé à la fin du mois ou à la fin du trimestre, il y a peut-être pas du tout la même incentive. En tout cas, je ne sais pas si vous, dans les équipes que vous avez vues, où il y avait un peu ce débat ou cette bataille entre aider à ce que les pull requests elles soient revues et fermées et je veux coder mon truc, quoi.
J'en sors là, moi je sors d'un projet et puis en plus je pense qu'il y a, comme tu dis, hein, il y a une différence entre service, produit, il y a aussi équipe interne qui se côtoie avec des équipes un peu plus externes et qui se côtoient moins. Il y a l'open source aussi, car là c'est terrible, faire des PR pour l'open source c'est aussi trash parce que toi en tant que contributeur externe t'as pas toujours le temps. Il se trouve que là, aujourd'hui, tu as 4 heures devant toi. Et la PR, elle est revue 4-5 jours après, une semaine après. Mais une semaine après, toi, tu n'as plus le temps. Donc, ouais. Les commentaires arrivent, mais pas de bol, tu n'as plus le temps. Et là, chez ce client-là, où je viens de terminer, c'était super pénible, en fait. C'est super pénible. Tu passes. Je pense qu'un message Slack sur deux, c'était s'il vous plaît, ma PR. Qui est-ce qui veut voir ma PR? S'il vous plaît. Et je sais pas comment on va améliorer ça. Le team leader, le PO, etc. était peut-être pas avait pas la culture de l'APR, mais moi je trouvais que c'était super pénible parce que il pouvait se passer un jour.
C'est la culture de la vélocité aussi, tu vois.
Ouais. Il pouvait se passer une journée et puis tout le monde d'envoyer des Slack à tout le monde. S'il te plaît, est-ce que tu peux revoir ma PR? Et puis le truc de la PR1 qui va te bloquer pour ta PR2 parce que quand même elle est un peu liée, tu vois. Donc t'attends que la 1 soit acceptée pour faire la 2. Donc pendant ce temps-là, tu fais la 4. Bref. Ouais, j'ai pas encore vécu l'expérience de my life où je me dis waouh, c'était trop cool. Donc effectivement, lorsque j'ai lu ça sur Stripe, je me dis dommage, j'aimerais bien qu'ils écrivent un bel article sur comment ils font.
Je sais pas comment ils font.
Il y a plusieurs paramètres parce que c'est clair que bon déjà le fait d'être payé ou de faire ça en open source c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même chose pour celui qui contribue mais pour celui qui revoit aussi hein, parce que
regarde les mecs de Red Hat qui sont payés. C'est pareil, si tu veux, ils préfèrent quand même coder que faire la.
On est d'accord. Mais sauf que là, les mecs sont payés, donc potentiellement leur boss peut leur dire quelque chose. Mais en plus, quand t'es dans l'open source, c'est que là, les gens, sont complètement libres. Je parle des open sourceurs vraiment indépendants. Eux, ils sont libres. Des fois, ils voient du temps, pas de temps, etc. Et le problème, c'est que ça crée de l'interruption. C'est ça aussi le problème, c'est comment gérer son temps. On en revient à la problématique de gestion du temps. Même en voulant le faire bien. Je sais que moi, j'essaye en interne de donner une revue rapidement. C'est vrai que c'est pas dans 15 minutes. C'est généralement pas possible parce que si je suis en train de travailler sur quelque chose, en train de coder, machin, je suis dans un espace de, j'ai bloqué mon temps, je bosse, je vais pas. Par contre, effectivement, se forcer, je trouve que se forcer au moins tous les jours ou deux fois par jour de regarder ce qui est arrivé et d'essayer de faire un retour. Après, ça dépend bien sûr des PR. Hein. C'est vrai que des fois, les PR, ce sont énormes. Si c'est énorme à tester ou juste à lire le code ou quoi que ce soit, c'est ça aussi le problème, c'est ce problème du non planifié. C'est ça la PR. C'est que finalement, c'est quelque chose qui est non planifié. C'est quelque chose qui t'arrive dessus à un moment où bah tu sais pas trop, parce que bon, même si tu bosses en équipe, etc., y a toujours des délais, des machins. Tu peux pas facilement dire je vais bloquer tant de temps tel jour pour telle PR. C'est faut qu'elle soit arrivée, faut qu'elle soit. Je sais pas. C'est cette gestion de temps aussi, moi je trouve qui est compliquée, c'est de se dire comment je gère mon temps. Mais je suis d'accord que l'idéal, ça reste de le faire régulièrement. Mais enfin, on le voit partout. Moi, je sais que c'est pareil chez Claude Biz, c'est pareil chez Maven. Le nombre de PR qui restent et qui sont pas revus ou quoi que ce soit, enfin, c'est insupportable, clairement.
J'essaie de trouver le nom, mais il y avait un client et la personne portait un nom, je me souviens plus. Bon, bref. Et ce rôle-là tournait à travers l'équipe. Et en gros, quand c'est toi qui y avait le bâton, pendant une journée, tu faisais toutes les PR. C'était insupportable. C'est-à-dire que quand c'est ton jour, en plus l'équipe était pas très très grande, donc c'était genre pas une fois par semaine, mais presque. Et ta journée, tu ne fais que des PR. C'est-à-dire que si t'as 10 minutes, tu fais un truc à part, mais ton taf, c'est les PR. Donc pendant une journée, tu fais que les PR. C'était insupportable lorsque ton jour arrivait, t'en transpirais, quoi. Mauvais pattern.
Enfin, on a essayé ça sur Quarkus. On appelait ça le Pierre Captain.
Ouais. Ah, le Pierre Captain, d'accord.
Qui était, alors, il n'était pas forcément de devoir revoir, parce que le problème, c'est que là, c'était hyper large technologiquement en plus.
Ouais.
Donc, entre le truc qui fait la manipulation de bytecode et le truc qui accède aux bases de données, c'est pas le même métier.
C'est pas les mêmes qui vont revoir.
Du coup, c'était beaucoup le triage et d'aller pinguer les bonnes personnes, etc. Donc là, Guillaume et les équipes ont fait un gros job d'automatisation. On détecte qu'il y a ceci, on pré-flag les choses, en fait, beaucoup.
Oui, ouais.
Après, peut-être que ça peut être un appairage, c'est-à-dire, tiens, je vais dans les équipes un peu structurées, tiens, je travaille sur cette épique, et du coup, tu seras mon reviewer, voilà, et puis j'ai ton dos, tu as mon dos, voilà, et peut-être que c'est un truc qui pourrait marcher, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Mais effectivement, le full time, on s'était dit au moins, parce que les gens, ils râlent, interruption, c'est insupportable. Et du coup, c'est ce que ça essaie de résoudre, Pierre Captain, là. C'est de dire, au moins, là, c'est ton job d'être interrompu. Et c'est un truc qui existe dans les Site Reliability Engineering. Vous pouvez retourner à l'épisode qu'on avait fait là-dessus avec les gens de Criteo, mais il y a des SRE qui sont là pour les systèmes et il y a aussi le SRE qui est là pour le Slack, pour répondre aux questions des gens. Voilà. Donc, ça fait partie de la rotation du type de travail aussi. Donc, voilà. Ça a l'air de marcher dans cet univers-là pour les devs, en tout cas dans l'open source ou dans les produits. Je ne l'ai pas vu marcher encore très bien.
Après, une fois de plus, c'est quand même tous ces workflows sont pas très très vieux, hein, mine de rien. On n'a pas un recul énorme. Ça a moins de 10 ans, quoi. Enfin, donc.
Avant, on faisait des patchs, c'est-à-dire que.
Oui.
Avant, on
faisait. Oui, mais la fréquence n'était pas la même, quand même.
T'avais un plus gros patch qui représentait ta fonctionnalité. Le gars faisait la revue. Puis quand il en avait marre, il te donnait le commit access et puis t'allais directement. c'est comme ça que ça marchait.
Bah oui.
Et après, il y a le modèle de lieutenant Linux, mais en gros, Linus, il faisait que de la pierre, quoi. Et il avait des lieutenants de pierre.
Voilà, oui, puisqu'on en avait parlé sur un podcast il y a quelques mois, je crois, mais Linux disait que maintenant il écrivait du code dans les mails. Son idée, c'était devenu le mail, et que comme il n'avait pas le temps, il avait plus le temps de coder, machin, il faisait que de la revue, etc. En fait, il se mettait à taper du code dans les mails parce que plus le temps de faire des PR, plus le temps de relire, etc.
Je l'ai fait pas mal aussi. Quand tu réfléchis à une API un peu haut niveau, tu dis, je vais pas passer par l'IDE, tu l'écris dans les machins. Le mec, il dit, mais ça compte. Et on s'en branle que ça compile ou pas.
C'est l'idée qui compte.
Ouais. Allez, on va passer à loi, société, organisation. Et de manière surprenante, il n'y a qu'un seul article. C'est sur la copie privée. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé les news, mais là, on essaie de faire... D'ailleurs, pour l'instant, il y a réussi de la copie privée sur la vente d'occasion. Et du coup, il y avait un article un peu vieux, mais qui réexplique l'histoire de la copie privée. Donc la copie privée, c'est, on parle de cassette et de VHS, et c'est les gens qui disent, non mais attends, mais les gens ils copient les films. Ils disent ouais, mais c'est au niveau privé, ça se passe pas beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une, quand on vend une cassette, on va prendre un petit morceau de cet argent là, et puis on va le redonner au système de production de médias, que ça soit musique, vidéo, etc. Et puis le stockage numérique arrive. Et là, ça devient la fête du slip, parce que le nombre de l'équivalent de cassettes explose. Non, te suscite pas, Antonio. Alors là, vous voyez pas parce qu'il y a une vidéo. Mais là, il y a Antonio,
il a sorti
les
ciseaux.
Que ses vêtements sont tout noirs, mais pas du tout. Les étiquettes sont blanches. Mais comme
et
il
donc,
supporte
je déteste
pas,
ça et je les enlève parce voilà. qu'elles sont blanches.
Ouais, alors, il y a une allergie, il est tout rouge.
je suis allergique aux couleurs. Blanc.
Non, 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 c'est parce que ça me rate, désolé. Voilà.
Tu me rappelles mon fils, qui est là, il me demande toujours, tu peux me redescendre mon étiquette dans le dos de mon pyjama ? Mais elle est déjà en bas, mais fais-le. Okay.
Je n'ai jamais compris pourquoi tous nos vêtements avaient ces étiquettes. Qui
alors moi, je les coupe pas, elle m'embête, mais je les coupe pas parce que je me dis, eh oui, mais s'il faut que je sache la température et qu'est-ce que je vais faire ?
Ou la taille, parce que
c'est
quand...
l'avantage.
Ou la taille, tu as absolument raison, quand tu veux reprendre le
oui,
même t-shirt.
Les enfants, quand tu as des enfants avec des années très proches, c'est pratique de connaître la taille.
Ouais. Bref, on était où ? Oui, copie numérique. Donc, stockage numérique explose. Donc, je crois que ça avait démarré autour de 60 millions et en une dizaine d'années de mémoire, mais je me rappelle plus, faut lire l'article. Mais on est passé en 2017 à 270 millions d'euros qui sont brassés, donc c'est pas mal. Et la façon dont c'est fait, c'est qu'il y a une commission administrative qui fixe les règles de la copie privée. Et elle est faite de 6 usagers, 6 vendeurs de stockage, donc création de VHS, de disques durs, etc., et 12 ayants droit au niveau média. Et du coup, quand on regarde les usagers et les vendeurs, ils sont pas toujours d'accord, et du coup, il y a l'autre moitié qui est les ayants droit, donc c'est très dominé structurellement par les ayants droit, donc qui essaient d'amener le plus d'argent possible dans cette caisse-là, un peu la vache à lait, et un système qui s'auto-entretient, en fait. C'est ça qu'on va voir. Et donc... littéralement, il s'est construit la vache à lait, et donc c'est un prix basé sur... à la base, la loi, elle dit, c'est un prix basé sur la copie licite. Sauf que ils se sont dit, ben non, mais la copie, c'est quand les gens ils copient légalement les trucs, ben on va quand même récupérer de l'argent là-dessus, donc on va le faire sur la copie illicite. Donc ça a été cassé par le... C'est quoi déjà le...
C'est constitutionnel.
Le Conseil d'État. Non, pas d'État, c'est l'autre.
Constitutionnel.
Bref,
non,
ça a été cassé. Ensuite ils se sont dit ah ouais non mais en fait les gens ils utilisent la compression, donc en fait ce qu'ils mettent dans leur stockage c'est plus que ce que donne le stockage, donc on va augmenter l'argent parce qu'on va faire un ratio de compression. Donc là ils cherchent quand même, et en théorie elle est faite que pour les particuliers cette taxe et pas pour les pros, mais en fait c'est pareil, c'est faut envoyer un timbre à une adresse qu'on trouve dans le bottin qui n'existe plus, voilà, c'est donc ça. C'est quasi jamais appliqué, et il y a un autre effet pervers, c'est que cet argent là donc il est récupéré pour les ayants droit, et puis il y a un quart de cet argent là qui finance les festivals, les manifestations culturelles, etc. Plein, ça a du sens, sauf que ça veut dire que l'élu de tel département, il est en bisbis pour essayer d'avoir du financement pour son festival pour que ça arrive, parce que voilà, son intérêt c'est que sa région elle vive et qu'elle soit active. Du coup, les élus sont assez positifs sur la copie privée puisque ça les aide en pratique. Voilà, donc tout un système d'incentive qui est mal fait et qui va vers la perversion du système. Donc, à l'époque où l'article a été écrit, il disait qu'il y avait un effort pour essayer d'aller prendre l'argent sur tous les disques durs nus. Je crois qu'avant, c'était genre sur les iPods et les choses comme ça. Et là, maintenant, l'idée, c'était sur tous les disques durs nus. Et puis, pareil, de se dire, ah ouais, mais le streaming, c'est nul parce que les gens, ils stockent plus, ils streament. Donc, on va essayer de trouver un moyen.
Mais il y a eu une lettre, il me semble que c'est la semaine dernière, dans le journal du dimanche, par les ayants droit. Alors on a beaucoup parlé de Goldman parce que c'était un des gros connus quoi, mais il y a eu une lettre ouverte, il me semble que c'est la semaine dernière,
c'était plusieurs milliers, je crois. Enfin, c'était énorme.
Ouais. Bah, mais comme tu dis, les ayants droit, bah, ils disent cool, je gagne de l'argent.
Sans rien
les
faire.
Les élus, bah oui, pareil. Les élus locaux, quoi. Comme tu dis, les vendeurs de stockage.
Ah, eux, ça les embête un peu. Ça moins. Les embête un peu. Et
les usagers aussi, peut-être un peu, mais bon.
Et du coup, là, donc, c'est pour ça, la raison pour laquelle c'est revenu dans les infos, c'est que, à cause du streaming notamment, bah, cet argent-là, il, visiblement, entre le moment où a été écrit l'article de référence dont je parle et maintenant, bon, ça commence à baisser. Donc, ils essaient de trouver d'autres façons. Et donc, leur façon, ça a été de dire, ah non, mais là, c'est pour la copie privée. Donc, tu la payes quand tu achètes ton disque dur. Mais si tu revends ton disque dur en seconde main, en vente d'occasion, eh ben, tu vas la repayer aussi. Parce que pourquoi pas, en fait.
Voilà. Pourquoi pas.
Et le problème, c'est que ce qui marche bien, enfin là, on parle d'un mouvement de réutilisation, d'essayer de réutiliser les téléphones portables, les reconditionner, etc. Donc, c'est en général pour des gens qui ont moins d'argent et donc on rajoute une taxe. Alors, je sais pas, elle est pas forcément super grosse par truc, mais tout ça, ça se rajoute. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu un débat. Ça va aussi à l'encontre du coup de cette réutilisation des appareils. Et du coup, là où je me suis arrêté de lire, c'est que le Sénat, qui veut favoriser le côté écologique, voulait justement restreindre la taxe et ne pas l'autoriser pour justement les approches de seconde main. Donc, c'est pour ça que les ayants droit faisaient des tribunes et des machins pour aller faire pression sur les élus pour quand même pouvoir.
En tout cas, hier, elle est passée. Elle a été acceptée. Donc, je sais plus laquelle des deux chambres s'est passée en premier, mais c'est passé. Hein. Donc, ils étaient tout contents, les ayants droit, à dire, ah, c'est super. Bon, on vous fera plein de cadeaux derrière. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est passé. Après, j'imagine qu'il y a une.
Non, parce que le Sénat voulait la réduire. C'est-à-dire réduire la capacité. Donc, finalement, c'est les. Donc,
je sais pas lequel des deux a donné un go hier. C'était la.
Juste pour info, les smartphones, c'est 70% de leurs revenus. Donc, c'est-à-dire le stockage. C'est 70%, c'est les smartphones.
Hein,
c'est pas étonnant. C'est intéressant, hein, comment c'est ça s'est transformé.
Ouais.
Ok. Un petit outil de l'épisode. Quelqu'un le connaît ou je fais la.
Non, vas-y, fais-le. Enfin, j'ai découvert en lisant.
Oui, pareil, j'ai découvert.
Donc, on attend un podcast d'Horatio et de Uber. Je dis. Le pauvre, quand même,
Uber.
J'ai mon cerveau qui est transformé en Uber versus Uber. J'arrive plus à prononcer en français.
Bravo.
Uber Sablonnière.
Voilà. Et c'est des fronteux. Et donc, ils connaissent bien JavaScript. Et du coup, c'est comme nous. On aime bien Java. Donc, on utilise JBank pour écrire nos scripts.
Bah oui.
C'est pareil. Ils ont envie d'utiliser JavaScript pour écrire leur script et pas Bash. Et donc, il y a un outil qui s'appelle Google ZX qui permet d'écrire les scripts justement en JavaScript avec quelques sémantiques plus intéressantes d'isolation. Et c'est là où je n'ai pas le détail, qui permet que ça marche bien dans un univers de script. Et ça, c'est top pour justement, on veut écrire un petit script et ce qu'on connaît, c'est JavaScript. Et ça, c'est un petit outil qui marche bien pour ça. Alors, il faut NPM pour l'installer, évidemment, parce que voilà, ça. C'est la life.
Donc là, déjà, tu break ton environnement. Là, déjà, tu plantes ta machine dès que tu installes NPM et que tu mets 3 packages parce que ça va te foutre une merde sans nom. Tu sais plus rien qui marche derrière.
En fait, personne aime Bash. Les javaïstes, ils préfèrent faire des scripts en Java. Les javascripteurs,
franchement,
en fait, tout le monde déteste Bash. Bash en fait,
c'est que c'est limité, le problème de Bash. Enfin, moi, j'en fais beaucoup. Et comme je disais à Emmanuel en privé il y a quelques jours, bon, je suis en train de travailler à convertir certains trucs Bash en autre chose. Probablement du Quarkus, on verra. Mais le problème, c'est la limitation de Bash. Bash, ça a beau être super accessible et super pratique pour écrire des trucs facilement. Dès que tu veux faire des trucs avancés, le modèle de fonction, le modèle de... Enfin, c'est quand même super limité, hein. Tu vas pas faire des trucs très... Donc, dès que tu veux commencer un peu à réutiliser du code, à partager du code...
Ouais, source.
C'est... Voilà, c'est compliqué.
Donc, ouais, mais justement, là, c'était il y a 2-3 jours. Alors, je suis pas un pro du Bash, hein, il y a peut-être mieux, mais j'en étais quand même à mettre des échos partout, parce qu'à force de faire source, t'es un peu perdu, ton script, il plante, alors qu'hier, il marchait. Et vraiment, je mettais des échos Toto, échos Titi, parce que ça appelait des trucs de machin dans des fichiers, ça sourçait. Et je me disais, mais comment je débug ce machin, quoi? Donc c'était à l'éco-titi.
Dans les trucs que j'ai découvert encore très récemment, et pourtant donc j'en fais quasiment tous les jours du bash, justement du fait des appels et de comment tu décris tes scripts, savoir justement si tu démarres avec le shibang, bin bash, etc. en haut, et si tu fais des sources ou pas. Quand tu fais des sources, tu restes dans l'environnement bash courant, et donc en général sur nos machines, notamment sur macOS, on va souvent mettre à jour bash, on peut l'installer avec Homebrew ou autre, et donc on va être en bash 5 ou en bash 4, et donc on peut utiliser des trucs du langage de ces versions-là. Mais en fait, le problème, c'est que si tu hacks pas ta machine très profondément pour lui dire que le bin bash, faut qu'il arrête d'utiliser celui de macOS, parce que bin bash, c'est toujours celui de macOS dans ta machine, et donc c'est celui qui est en bash 3. Et ben, dès que tu as un script qui appelle un autre script, justement, sans passer par source et autres, et donc qui donc démarre un autre bash, environnement bash nativement, et ben, il tourne en bash 3. Voilà. Donc, tu te retrouves avec un truc. Ah ben, mais pourquoi? Ah ben oui, mais oui, c'est vrai que si je bin bash, c'est toujours sur ma machine, le bash 3 de macOS, parce que, ben, après, c'est des hacks que tu fais dans ton terminal ou dans ton profil pour lui dire, non, mais moi, dans le pass, la version 5 ou 4 que je veux utiliser. Ben oui, mais non, lui, bin bash. C'est la version 3. Donc, tu te retrouves avec des trucs, mais pourquoi mon script, il marche là, pas là, comme toi? Et effectivement, bah, parce que t'es dans un autre bash, et le bash, c'est pas la même version. Donc, c'est pour ça que je comprends que les gens veuillent aussi aller vers des langages un peu plus proches de ce qu'ils utilisent tous les jours, et que ça soit un peu plus simple à gérer en termes de code.
Voilà, enfin bref, on attend le crowdcast avec des gens qui utilisent pour de vrai aussi, pour les détails justement des choses intéressantes. Voilà, au niveau conférence, il y a les. Bah, c'est complet maintenant, mais les gens de Rivière-Adair ont fait encore un truc fou.
C'est ça. Dab. C'est ça.
Et donc, ils se sont dit, ce qui est important, c'est la sécurité des gens, donc la distanciation. Donc, on va faire une conférence sur des pédalos sur un lac.
Comme ça, on est distants les uns des autres.
Voilà, donc c'est un truc, quelqu'un dit une connerie, et puis on sait comment c'est, 2-3 bières, et paf, le projet est lancé.
C'est ça.
Et donc, oui, parce là, que je crois quand qu'ils même, sont complets.
Il m'a contacté, Stéphane, et malheureusement, j'ai pas pu y aller, ça se goupillait pas mal.
C'est dans le futur, c'est en début juillet, je crois.
Ouais, et je lui dis, ouais, d'accord, j'ai une presse, etc. Il me dit, ah non, mais t'es dans l'eau et il n'y a pas d'ordi, ouais, et il n'y a pas de slide. Je dis, oui, mais moi, c'est du live coding. Ah non, tu peux pas. Ah bon, d'accord, mais je fais comment? Bah, tu peux pas. Ah, ok, d'accord. Donc, en tant que speaker, c'est un peu compliqué. Je dis, ah oui, c'est 50 minutes, j'ai pas d'ordi, j'ai pas de slide. Ok, d'accord, mais je suis dans l'eau. Bon, et puis, malheureusement, j'ai pas pu y aller. T'y vas, toi, Manu?
J'hésite parce que j'ai pas vraiment de sujet préparé, mais effectivement le côté pédalo incite potentiellement à ne pas préparer tant que ça en fait, parce que ce sera idéalement plutôt une discussion. Je crois que c'est 100 personnes, 3 tracks, donc voilà, c'est pas non plus des gros. Donc ça me titille.
Alors il y avait les pédalos, mais quand même ils ont au milieu un truc qui flotte, et c'est là où j'ai dit ah ben voilà le truc qui flotte là, tu peux pas mettre du courant.
Ouais, pour c'est là où il y a la keynote.
Ouais. Là, il a dit non, on peut pas. Donc, c'est
si
dommage.
Si tout le monde pédale assez vite.
C'est dommage parce que, comme tu dis, ils sont toujours un peu fous, les gens du Rivière-Adair, et je serais bien allé, mais bon, bref, pour la prochaine.
Yes. Voilà.
Et puis DevOps France, hein, on l'a dit, fin septembre, et bim. En physique, en présentiel.
Voilà, eh bien, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir suivi et puis rendez-vous la prochaine fois. Si vous avez des news que vous voulez pousser ou des choses qui vous ont intéressé, que vous voulez partager avec la communauté, faites-nous des crowdcasts. Tiens, d'ailleurs, à un moment, quelqu'un parlait de crowdcast et puis il y a Crowdcast HQ qui a retweeté. Alors, j'ai dit, merde, en fait... Il y a des mecs qui avaient déjà le mot, en fait. Bon, bref, le dites pas. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur... comment c'est déjà ?
lescascodeurs.com/crowdcast.
Donc, C-R-O-W comme une foule. Cast, C-A-S-T. Et voilà. Bah, écoutez, bisous à vous. Et puis, à la prochaine fois.
Bientôt. Stay safe. Allez, à la prochaine. Yes. Bye.
Le T thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.